Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là, on va la gagner!
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là.
Des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les sous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2h, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir, vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 30 septembre. Et dans ce Canu Info, on aura une rubrique d'abord internationale
donc on parlera un petit peu de la Palestine et en particulier cette fois-ci des travailleurs palestiniens. Et on fera un petit point sur le Liban avant d'accueillir notre invité qui nous parlera de la campagne de libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et enfin, pour l'international, on aura un reportage au rassemblement qui a eu lieu la semaine dernière en soutien à la Kanaky.
Au national, on vous parlera de notre cher ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui soutient un employeur qui licencie 2 salariés parce qu'elles sont voilées. Et enfin, on parlera du nouveau procès du RN qui s'ouvre aujourd'hui pour ses assistantes parlementaires.
Et puis au local, on aura une interview sur, on l'espère, la non-prochaine expulsion de l'ECG.
Mais on commence tout de suite avec les brèves.
Oui, et dans les brèves, demain 1er octobre, c'est la grève nationale interprofessionnelle appelée par la CGT, Solidaire, la FSU et les organisations de jeunesse pour l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et le développement des services publics partout sur le territoire. Donc on vous redit quand même que la grève est un droit, que vous soyez syndiqué ou pas. Dans le privé, vous pouvez faire grève pour la durée que vous voulez, une heure, une demi-journée, une journée. Et dans le secteur privé toujours, quand il y a un appel syndical comme demain, vous n'êtes pas dans l'obligation de prévenir votre employeur à l'avance. Les heures de grève seront déduites de votre salaire, mais le motif de grève ne peut pas être mentionné par l'employeur sur votre fiche de paie. Donc après avoir imposé en 2023 la réforme des retraites contre l'avis d'une très large partie de la population et sans majorité à l'Assemblée, Macron persiste à appliquer sa politique au service du patronat et des plus riches. Son premier ministre de droite, choisi main dans la main avec le RN au mépris des résultats des législatives, a déjà annoncé 10 milliards en moins dans le budget, en taillant dans les moyens des services publics. C'est donc important de se mobiliser massivement par la grève et les manifestations le 1er octobre et après pour imposer nos mesures d'urgence. À Lyon, la manifestation partira à 11h30. Rendez-vous devant la manufacture des tabacs.
Et tout de suite, une autre brève.
Et en Autriche, cette fois, l'extrême droite autrichienne obtient un succès historique aux législatives dimanche. Le parti de la Liberté, FPÖ, qui porte du coup plutôt mal son nom, mené par Herbert Kickl, fondé par d'anciens nazis, a obtenu 29% des voix, une augmentation de 13 points par rapport aux élections de 2019. Donc Herbert Kickl, ex-ministre de l'Intérieur, c'est un bon gros nazi. Il veut se faire appeler comme Hitler Volkskanzler, le chancelier du peuple, Et il a repris le terme de remigration avec comme projet de déchoir de leur nationalité et d'expulser les Autrichiens d'origine étrangère. Cet ex-ministre de l'Intérieur âgé de 55 ans a aussi su attirer les anti-vax avec ses propos conspirationnistes contre les mesures anti-Covid. Donc après, la question se pose de savoir si ce parti va réussir à faire une coalition avec d'autres pour vraiment gouverner. Pour l'instant, c'est pas encore dit, à suivre.
Et on enchaîne donc maintenant avec l'international.
Et on enchaîne tout de suite, bien sûr, avec...
International. Alors, on commence donc l'international en retournant en Palestine, et malheureusement, on risque d'y retourner systématiquement toutes les semaines. Cette fois-ci, donc, d'abord, c'est pour vous parler de la plainte déposée par 10 confédérations syndicales internationales auprès de l'Organisation internationale du travail. Plainte contre l'État d'Israël. L'objet de la plainte porte sur le salaire de plus de 200 000 travailleurs palestiniens, habitants soit de Gaza, soit de Cisjordanie, et qui travaillent ou travaillaient en Israël. Ces 200 000 travailleurs n'ont pas été payés depuis l'attaque du 7 octobre. Alors, depuis cette date, une partie des travailleurs ont vu leur permis de travail révoqué, notamment les habitants de Gaza. Mais les syndicats avancent deux choses. D'abord, que le salaire du mois de septembre n'a jamais été versé, et que les contrats de travail n'ont aussi jamais pris fin. Donc les entreprises concernées violent donc deux dispositions de la convention de l'OIT, dont Israël est bien signataire. L'OIT fait donc pression sur Israël pour qu'il fasse appliquer le droit du travail sur son sol. Cette plainte, c'est surtout une façon d'en parler, parce qu'en vérité, si Israël ne remédie pas à ses impayés, l'OIT ne prévoit que d'ouvrir une enquête. Il faut noter quand même que l'occupation illégale par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, enfin surtout de la bande de Gaza, a heurté l'économie palestinienne pendant des décennies, entraînant une énorme dépendance à l'égard du marché du travail israélien et une précarité généralisée. Ce chômage soudain n'est qu'une étape supplémentaire dans la précarisation d'Israël, Israël doit donc se conformer à ses obligations juridiques internationales, certes, veiller à ce que ses travailleurs reçoivent immédiatement les salaires qui leur sont dus, mais ce que l'on espère, c'est que les travailleurs palestiniens aient à nouveau accès à des terres et des ressources afin de s'émanciper de la tutelle d'un pays colonisateur. Dans l'actualité liée à la Palestine, il y a évidemment aussi les bombardements israéliens, en particulier sur le Liban, qui dure depuis une semaine maintenant. Israël se targue d'avoir éliminé le chef du Hezbollah, mais ce que l'on constate surtout, comme à Gaza et comme partout où Israël bombarde, c'est que les civils meurent massivement. Au Liban, on en parle de 700, et c'est évidemment un chiffre très bas, puisqu'on ne parle pas encore des blessés qui risquent de mourir dans les jours qui viennent. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le Liban et la Palestine ont un sort lié. Pour en parler un peu plus aujourd'hui, on accueille Alex de la section lyonnaise de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Bonsoir Alex.
Bonsoir.
Alors peut-être pour commencer, tu peux nous rappeler qui est cette personnalité, qui est Georges Ibrahim Abdallah ?
Bien sûr. Alors Georges Abdallah, c'est un communiste libanais qui a pris les armes pour la Palestine. Donc c'est un combattant du peuple palestinien. Il s'est notamment mobilisé après les massacres des camps de réfugiés de Sabra et de Shatila qui ont fait plus de 3000 morts, avec la complicité directe donc de l'armée israélienne au Liban, au sud Liban. Et donc il a fondé les FARL, les fractions armées rouges révolutionnaires libanaises, où l'objectif était de porter la guerre là où l'ennemi l'a décidé, c'est-à-dire dans les centres impérialistes, dont notamment la France, qui avait une part très active dans le conflit et dans le, déjà dans l'épuration ethnique en cours au sud Liban et donc contre les Palestiniens. Et donc Georges, il est arrêté à Lyon en octobre 1984, pas très loin d'ici, près de la gare de Perrache. À sa sortie de la gare, il est poursuivi par des agents du Mossad en moto qui essayent de l'éliminer. Et donc il va se réfugier dans un commissariat, assez ironiquement. Et en fait, au début, il est arrêté pour très très peu de choses, pour faux et usage de faux, parce qu'à l'époque, les services secrets algériens avaient fourni des vrais faux passeports aux combattants palestiniens. Et donc au début, il écope seulement de quelques années de prison, mais très rapidement, on va se servir du fait qu'il a une notoriété, qu'il est reconnu comme un des chefs donc, de ces FARL, donc de ces combattants libanais pour la Palestine, pour lui mettre dessus d'autres accusations, notamment l'accusation d'avoir éliminé un agent de la CIA et un agent du Mossad et des actions armées sur le territoire en France, ce que Georges a toujours nié. Et notamment son premier avocat, qui l'a suivi des années, a révélé au grand public des années après avoir travaillé pour les services secrets français. À l'époque, il s'appelait la DST. Donc, on a affaire à un procès truqué, plus un acharnement politique.
Et donc là, aujourd'hui, Georges Abdallah, il est en prison depuis plus de 40 ans. Maintenant, c'est ce qu'on disait. Pourquoi c'est important de parler de lui encore aujourd'hui ?
Nous, quand on parle de Georges à la campagne, en fait, on en parle comme pas en tant seulement qu'humain. C'est-à-dire que Georges, il représente plusieurs facettes. On le voit vraiment comme un porte-drapeau. Et c'est pas seulement un combat qui est porté en France, c'est un combat qui est venu directement de la Palestine et du Liban. Parce que Georges, du coup, il a notamment travaillé pour le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui revendique sa libération. Notamment, on avait les listes d'échanges d'otages qui existaient au début de l'épuration ethnique à Gaza après le 8 octobre. Et Georges faisait partie de ces otages que la résistance palestinienne demandait à ce qu'ils soient libres. Mmh. Donc Georges, il présente plusieurs facettes. La première, c'est qu'il présente donc une facette révolutionnaire, parce qu'il est communiste. Donc c'est-à-dire que toutes ces personnes qui se revendiquent de cette tendance ou qui s'en inspirent peuvent lutter pour sa libération. L'autre aspect, c'est que c'est un arabe qui lutte pour la liberté, pour la libération de la Palestine et pour l'émancipation du monde arabe. Donc toutes les personnes qui soutiennent également ce processus peuvent se saisir du combat de Georges. Et le troisième aspect, c'est qu'il est libérable selon le droit français depuis 1999. Donc il a déjà déposé 9 demandes de libération conditionnelle qui ont à chaque fois été refusées. Donc tous les démocrates et les progressistes, même sans être forcément d'accord avec les actions de Georges, peuvent également se saisir de ce combat. Et Georges, c'est également quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais capitulé. Il y a notamment une anecdote assez intéressante, c'est qu'il y a 2 ans et demi, la justice avait demandé, donc Georges avait également fait une nouvelle demande, enfin il y avait un processus en cours, et il avait été posé la question à Georges, est-ce que vous regrettez vos actes? Et Georges avait répondu non, et la ministre, il me semble que c'est la ministre de la Justice du Liban qui est intervenue en France pour demander la libération de Georges, on lui avait répondu, mais Georges ne regrette pas ses actes, il n'a pas fait acte de repentance. Donc en fait on reproche à Georges bien plus que les actes qu'il a pu commettre et qui peuvent être répréhensibles d'un point de vue légal, on lui reproche la légitimité de son combat, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important aujourd'hui en France de défendre Georges, parce qu'il représente l'ensemble en fait des prisonniers palestiniens et tous les progressistes également de France.
Merci pour cette explication. Alors en vérité, on pose la question, mais on est tout à fait d'accord que c'est encore important de parler de lui. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous présenter la campagne, puisque du coup je t'ai introduit en disant que tu faisais partie de la section lyonnaise de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Tu peux nous en dire plus ?
Bien sûr, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les premières militantes qui ont lutté pour la libération de Georges, au début, ils défendaient donc le groupe Action Directe, notamment Jean-Marc Rouillant, qui était donc enfermé dans une cellule voisine de Georges. Et donc ces militants, ils ont dit aux personnes qui venaient les visiter, il faut que vous occupiez d'un communiste, donc de Georges, qui est à côté et qui est isolé. Donc le premier collectif, il apparaît autour des années 2004-2005. Georges, il a enfermé près de Toulouse à Lannemezan. Et très rapidement, ils ont développé des actions nationales pour faire connaître Georges, le visibiliser. Et ensuite, on a la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah qui apparaît dans les années 2013-2014. Donc cette campagne, on en fait partie, pardon. Et cette campagne, elle a un maillage national dans plus de 11 villes, et notamment des liens à l'international, que ce soit au niveau du Maghreb, du Moyen-Orient, et également du reste de l'Europe. Par exemple, on a des actions pour Georges qui ont lieu jusqu'au Brésil et au Mexique pendant les mois d'action internationale pour sa libération. Et donc cette campagne, elle vise vraiment à rassembler l'ensemble de celles et ceux qui veulent lutter pour Georges pour en faire une force, on va dire une émulation collective, parce qu'en fait derrière Georges, c'est le soutien à la lutte de libération nationale du peuple palestinien.
Et alors justement, là tu viens parce qu'en ce moment c'est le mois d'action internationale, est-ce que tu peux nous en donner les dates, même si on est un peu sur la fin ?
Bien sûr, donc les dates de ce mois d'action, c'est du 7 septembre au 7 octobre. Pourquoi le 7 octobre ? Parce que Georges va être jugé donc le 7 octobre pour sa 10e demande de libération conditionnelle. Et il faut rappeler qu'il est conditionnable d'une expulsion au Liban, et l'État libanais accepte de recevoir Georges. La justice accepte de libérer Georges, mais c'est l'État en fait qui fait obstruction. Et donc nous, cette campagne, elle vise à mettre un maximum de pression sous toutes les formes nécessaires contre l'État, parce qu'en fait la seule chose qui puisse faire libérer Georges, c'est que son maintien en détention coûte plus cher à l'État que le fait qu'il soit expulsé au Liban. Et donc d'année en année, cette campagne, elle vise à mobiliser de plus en plus d'acteurs, notamment devant les consulats. Par exemple, il y a 3 jours, il y a eu un rassemblement en Suède devant le consulat de France pour exiger la libération de Georges, pour que son maintien en détention leur coûte plus cher, et c'est seulement comme ça qu'on pourra faire libérer Georges.
Et alors du coup, on peut s'arrêter quand même sur la date d'examination de cette demande de libération. C'est le 7 octobre. Alors on l'a déjà mentionné la semaine dernière, mais quand même le choix n'est pas anecdotique. On imagine bien que dans les médias, ça ne va pas être présenté à son avantage, puisque le 7 octobre, ça va être l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre sur Israël. Est-ce que tu veux raconter quelque chose sur le choix de cette date en particulier ?
Bien sûr, le premier, c'est que l'État, je pense, il essayait en fait de tendre un piège à tous ses soutiens. Lorsqu'il a mis la date du 7, pour que ça soit dès le début dans la tête des gens un anniversaire et pour certains au contraire une condamnation. Mais en fait, il nous a rendu un service parce que le 7 octobre, de plus en plus, à cause d'Israël, en fait, c'est devenu quelque chose qui s'est justifié. Même les personnes qui, au début, auraient pu être hésitantes par rapport au 7, face au massacre et à l'épuration ethnique, les personnes se disent de plus en plus, peut-être qu'en fait, le 7 était nécessaire malgré tout ce qu'il a pu se passer. Et donc, il nous a rendu un service. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne vont pas réussir à casser Georges de cette manière, parce que lorsqu'on dépose une demande de libération conditionnelle, c'est souvent assorti d'un examen psychologique. Et donc, on a un examen psychologique avec un docteur. Et Georges, il en a passé un il y a quelques mois, en fait, il en a passé deux. Et lors du premier, on lui a demandé à la fin, le docteur lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez du Hamas ?» Et donc, Georges a tout naturellement répondu « Le Hamas fait partie de la résistance. » Et donc, le docteur a marqué à la fin de son rapport « Georges soutient le Hamas. » Donc, l'avocat a réussi à faire en sorte qu'il y ait un deuxième examen où, cette fois, le docteur était plus professionnel et moins engagé politiquement, donc dans le sens de l'État. Et cette mention donc, n'a donc pas figuré. Mais nous, ce qu'on cherche à dire, en fait, et c'est comme Georges le dit, c'est qu'ils ne vont pas réussir à le casser. Il l'a récemment redit dans un parloir, il a dit « La position de l'impérialisme français concernant mon emprisonnement n'a pas évolué. » Donc il est extrêmement conscient que cette date, en fait, ça ne sera pas une possibilité d'être libéré, parce que tout dépend de la mobilisation populaire et pas d'un simple agenda judiciaire de l'État.
Ok, alors nous, on va quand même parler un peu d'agenda, parce que tu vas nous dire un peu peut-être ce qui s'est déjà passé, parce que donc on est vers la fin du mois de mobilisation. Qu'est-ce qui a déjà eu lieu à Lyon et qu'on a peut-être raté, et qu'est-ce qu'on va encore pouvoir aller faire?
Très bien, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont lieu à Lyon, notamment le collectif 69 Palestine qui s'est très rapidement saisi de la question dans ses manifestations et rassemblements, qui a très souvent parlé de Georges. Également le groupe lyonnais La Fosse au Lion qui s'est emparé de la question, ainsi que divers collectifs. Et on a eu des actions, donc, on va dire, retentissantes. On a eu une action à l'ASVEL où des militants lyonnais sont allés perturber le match de l'ASVEL, donc le basket qui se trouve à Villeurbanne, parce qu'il avait prévu de jouer un tournoi en Israël avec Tony Parker, qui va encore jouer des matchs, notamment le 3 octobre, donc dans quelques jours, ils vont jouer au Maccabi Haïfa. Donc on a eu cette action, on a eu une action à Pardieu avec des milliers de tracts qui ont été jetés et un immense drapeau palestinien déployé. Sur les tracts, c'était exigé la libération de Georges Abdallah. Il y a eu des centaines d'affiches collées, notamment dans les quartiers. Il y a eu des graffitis sur les facs, dans les quartiers, en centre-ville. Dans les autres actions à venir, on a des projections, une qui a déjà été effectuée à l'Alternatibar la semaine dernière. On en a une autre qui va avoir lieu donc à l'ECG le mercredi. Donc,
mercredi qui arrive là.
Mercredi qui arrive exactement à 19h. À l'IEP, on en aura une le jeudi, donc c'est le 3 octobre à 17h30. On a un tournoi de foot organisé dans le quartier à Mermoz en soutien à Georges Abdallah, donc ça sera au 163 avenue Général Frère à 15h30 le samedi. Et on a également la manif du collectif 69 qui aura lieu à 14h30 samedi à Bellecour.
Ok, super. Alors, peut-être pour finir, est-ce qu'il y a des moyens de rester informé, de suivre la mobilisation ?
Bien sûr, donc on a différents réseaux, donc tout le réseau que je vous ai cité, plus les réseaux de la campagne unitaire qui permettent donc de grouper l'ensemble des mobilisations partout en France et dans le reste du monde. Donc je vais vous les citer rapidement. Sur Twitter, c'est le @CUPLGIA. Pour Facebook, c'est pour la libération de Georges Abdallah. Et pour Instagram, c'est pour la libération de Georges Abdallah.
Et quand tu dis tout le réseau que tu as cité, c'est par exemple le collectif 69 Palestine et La Fosse au Lion localement.
Exactement.
Ok, merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Merci à vous déjà de m'avoir reçu, et on voulait nous dire une dernière chose, c'est qu'en fait ce qui est important à défendre, c'est que c'est pas tant une peine d'emprisonnement, c'est plutôt pour nous un assassinat à long terme, parce que quand on met quelqu'un 40 ans en prison, on veut l'assassiner. Il va notamment avoir un procès en Italie pour une sombre affaire qu'ils ont ressortie 20 ans après, et son procès va se dérouler le 15 octobre. Et nous, comme on l'a dit à la prise de parole du collectif 69 samedi, on ne laissera pas en fait Georges Abdallah se faire assassiner en prison, parce que ce qu'on défend, c'est sa vie et son combat, et on fera tout ce qui est nécessaire, que ce soit par tous les moyens, pour que Georges ne meure pas en prison assassiné.
Ok, merci beaucoup. On va continuer l'international avec un reportage à une manifestation de la semaine dernière.
Oui, c'est un reportage sur la mobilisation appelée par le MKF.
Voilà, pour nous, nous sommes là aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour le peuple kanak. Il est symbolique car il rappelle que cela fait 171 ans que nous sommes colonisés par l'État français. Le 24 septembre est un jour férié en Kanaky. Pour une partie de la population calédonienne, cette date est consacrée à la commémoration de la prise de possession qui a eu lieu le 24 septembre 1853 à Balad, en province nord. Pour le peuple kanak, c'est un jour de deuil. Autrefois, cette date marquait un jour de deuil, mais la création du Mwaka en 2005 lui a donné une nouvelle signification. Le fait de diriger le Mwaka a été un moyen de surmonter les souffrances liées à la colonisation française, en remplaçant cet anniversaire douloureux par la fête célébrant l'identité du peuple kanak et la diversité multiethnique de la Kanakie. Le Mwaka, pour vous expliquer un peu, c'est un monument totem de 12 mètres surmonté d'une grande case et du grand chef et d'une flèche fêtière. Mwaka signifie maison de l'humanité. Et la seconde raison de notre présence ici aujourd'hui, en tant que kanak, nous nous mobilisons afin de faire connaître au plus grand nombre la réalité actuelle de notre pays, ce qui se passe sur le terrain. Depuis le 13 mai, le pays connaît une situation de crise similaire à celle qu'on appelait timidement les événements des années 80, s'est déroulé en Kanakie. Nous allons donc profiter de ce rassemblement en ce jour important pour vous parler du peuple kanak et de ses 171 ans d'histoire coloniale sur un peuple qui a 3 millions d'histoires. Nous allons également vous expliquer pourquoi aujourd'hui notre pays est en feu, pourquoi certains de nos enfants, de nos frères et sœurs qui se trouvent là-bas sont abattus par des milices de forces de l'ordre et les forces de l'ordre. Et pourquoi cette actualité est une répétition des événements des années 80, une période qui fut sombre et néfaste pour nos parents et grands-parents, que nous, jeunesse kanak et calédonienne, après tout le travail et le sang écoulé, nous n'étions pas censés subir. Mais voilà que nous sommes là aujourd'hui. Merci.
La définition sur le colonialisme d'Aimé Césaire qu'il donne dans son discours en 1950. Aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme indigène en instrument de production. À mon tour de poser une équation. Colonisation égale chosification. La chosification, c'est-à-dire la colonisation, est un processus et une réalité qui a commencé pour les Kanaks il y a 171 ans. En effet, le 24 septembre 1853, l'État colonial français prend possession de la Kanakie, plus connue sous le nom de Nouvelle-Calédonie encore aujourd'hui. Il s'agissait aussi pour la France de renforcer son influence dans le Pacifique. C'est pourquoi Napoléon III va créer une colonie pénitentiaire avec la création de bagnes et la déportation de prisonniers. Elle voit donc le Pacifique dans la Kanakie comme une voie commerciale et donc d'un point de vue géostratégique. On peut donc dire que c'est le début d'une offensive de l'État colonial français contre le peuple kanak, présent depuis plus de 3000 ans, car l'objectif est de le rendre minoritaire. Cette volonté se traduit par l'occupation militaire, l'accaparement des terres, l'expulsion et massacre, le déplacement et le cantonnement du peuple kanak. Le début de cette colonisation est également marqué d'une guerre en 1878 où le grand chef kanak Ataï de Comalé à la fois sur la grande terre de Kanakie a mené une première insurrection contre l'État colonial français. Entre 1853 et 1920, la population kanak a été divisée par deux. De 55 000 personnes, elle passe à 27 000. Signe de mépris des colons pour le peuple autochtone, en 1931, un groupe de Kanak est enfermé dans un enclos lors de l'exposition coloniale à Paris. Exhibés nus, n'ayant pas le droit de parler, ils sont soumis de pousser des cris d'animaux avec des panneaux les qualifiant de cannibales. Durant 60 ans, le code de l'indigénat a privé la population Kanak de nombreuses libertés, principalement celle de pouvoir circuler librement et de pouvoir pratiquer leur langue et culture. Ce n'est qu'en 1946 qu'il sera aboli. Et c'est aussi en 1957 qu'il aura le droit de vote. Mais dans les faits, les Kanaks ne sont ni citoyens ni peuple libre. 80 en Kanakie sont marqués d'une quasi-guerre qu'on appelle timidement les événements des années 80. C'est une situation de crise où les Kanaks et indépendantistes tiennent tête à l'État colonial français pour accéder à leur indépendance. Ces événements ont été une nouvelle fois l'occasion pour les milices anti-kanak et les forces de l'ordre de tuer du kanak et des indépendantistes. Le terme « chosification » de Aimé Césaire prend tout son sens en Kanakie, car nous avons été ignorés, déshumanisés, traités comme des objets et abattus, comme des animaux, parqués dans des réserves. Nous n'avions même pas le statut de citoyen, mais de sujet. Et ce manque de respect et de considération va même jusqu'à déshumaniser nos morts.
Depuis 2023, son gouvernement français a décidé de passer en force deux projets de loi en Kanakie, en sachant très bien qu'ils risquaient de nuire à une paix fragile qui dure depuis 30 ans. Le premier projet de loi concernant le report des élections provinciales a été adopté en mars dernier Le second vise à modifier la constitution du corps électoral qui a un point central dans l'accord de Nouméa. Ces projets de loi renouent entre les pratiques éprouvées de mise en minorité du peuple kanak dans son propre pays au profit d'une droite locale fasciste qui voudrait, par une modification des sièges du congrès de la Kanakie, y trouver une majorité en sa faveur pour garder leurs privilèges gagnés dans le sang et la souffrance des kanaks et d'y mettre en place un nouvel Eldorado. C'est une façon de favoriser la recolonisation du territoire et l'invisibilisation du peuple kanak. En réponse, en Kanakie et Nouvelle-Calédonie, les mobilisations se sont amplifiées contre ces deux projets de loi. Plus de 80 000 personnes dans les rues le 13 avril dernier sur tout le territoire. Les mobilisations historiques et pacifiques qui ont été organisées par la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain. Le texte de loi des déjets électoraux a été voté par l'Assemblée le 13 mai 2024. Ce passage en force de l'État a déclenché la colère de l'ensemble du pays, plus particulièrement des quartiers nord de Nouméa. Les révoltes, incendies et pillages sont l'expression d'une colère sur fond d'inégalités sociales et économiques.
Vive, vive la Kanaki, abat la répression.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi. Et on vient d'écouter un reportage sur le rassemblement en soutien à la lutte des Kanaks. Et on va maintenant faire une petite pause musicale.
Et oui, on écoute tout de suite Bad Girl de Female Noise, qui est une artiste libanaise.
Any records? Bad girl? Yes, baby, bad girls. We are a bad girls here. Small peach. I'm a bad girl. No please, no. هاد البلان صافي قدام ما كاين غمش اصلا تيتي في الكام كنشوفك كاسبوزا عرفاك بطاطا روزا عرفاك غير كتبين فين حشرة ناموسة شحال قدك ما تدور غنصوت عليك غنطيح واخا تايا ترجل ودير فيها قبيح 1 ما كنطيحش لداك النيفو 2 بحالك حدانا غير كيجيفو او يا ما عنديش الوقت البوبا جبلك شي زيتونة مانا باي باي I'm a bad girl I'm not stupid I know what you want Love What are you talking about? Stay away Got you banished with your doubt I'm a bad girl I'm a dish like what I'm not stupid I know what you want Love What are you talking about? Stay away Got you banished with your doubt I am bad girl بنادم بيا كيدور كل ما كيشوفني نوضو بلا يطور كل نهار واقف مكيل حيط اللي يصير I am not easy باغي تعرف I'm so sorry بلا نقدين عارفك عش باغي باغي تبانو دار فيها ولد بوس شوف شي واحدة غير اللي بحالك اليوم كندوس ما كندوخ ما كنغفل ما كنطيح في الشبكة وخاتية تبس بس وما كنشوف الضحكة بلا لي باين ماشي بلا تزنقة هي كوين كمل له اللي بقى I'm a bad girl ما عنديش ليك وقت I'm not stupid طبيبة هادي غيبة فيك دوس وطالت بعد غدك بدا نشوفك ماشي غيسك واسع عادك غير على غيري زيد نشرح نعمل على النجوم البوا بوا نواخ فوجك وحاسب راسك الغوا مواخخ افريداي فاشن وات اب ما باد جير اي 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 دونك يبغى يبان اكلام خاوي داوي ناوي سيرو كيرو تيرو ادفع بيفي وصع سيرو ريحة طاس كلات شمك بالخزنة زيان بوحطي ام هير عما اي عكاش عصباطي I'm a bad girl ما عنديش ليك وقت I'm not stupid I know what you want Love What are you talking about? Stay away Got you banished with your doubt I'm a bad girl ما عنديش ليك وقت I'm not stupid I know what you want Love What are you talking about?
Il est 19h32 sur Radio Canu, vous écoutez les Canu Info du lundi, vous venez d'écouter Bad Girl de Female Noise et on passe tout de suite au...
National.
Et premier point au national avec notre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Oui, alors c'est les déclarations de Bruno Retailleau sur X. En fait, tout commence à Nancy dans une association d'accueil et de réinsertion sociale qui s'appelle donc l'ARS, l'Association d'accueil et de réinsertion sociale. Début août 2024, la présidence de l'association ajoute un paragraphe dans le règlement intérieur sur la neutralité qui impose une obligation de neutralité du personnel, neutralité religieuse, politique, etc. et l'exercice des missions dans le respect du principe de laïcité. Du coup, deux jeunes salariés de la structure qui portent le voile à leur travail depuis 3 et 4 ans, puisqu'elles sont salariées depuis un moment dans cette association, en rentrant de vacances, demandent une entrevue avec la direction pour demander ce qui va se passer pour elles. Et trois propositions leur sont faites: retirer leur voile, faire une rupture conventionnelle ou le licenciement. En gros, retirer leur voile ou la porte. Alors, elles se sont placées en arrêt maladie pour l'instant. Mais leurs collègues se mobilisent et il y a eu une assemblée générale mardi dernier qui a réuni près de 100 personnes pour demander à la direction de revenir sur sa décision et de retirer cette clause jugée stigmatisante et discriminatoire, et on peut ajouter ici islamophobe. Cette mobilisation est historique dans l'histoire de l'association de 350 salariés. Il s'agit pour les salariés qui se mobilisent d'une violence managériale sans nom. Du coup, il faut revenir un petit peu sur la nouvelle gouvernance de cette association pour comprendre, puisque la nouvelle présidente n'est autre que Valérie Jurin, enseignante dans un établissement catholique privé sous contrat. Donc en termes de laïcité, c'est vrai qu'on peut faire mieux. C'est aussi une ancienne élue pendant 20 ans, de 2001 à 2020. Elle a été adjointe au maire de Nancy, figure du parti radical de centre droit. Donc c'est à son initiative qu'on doit l'introduction de cette clause dans les règlements intérieurs, qui avait d'ailleurs été refusée par le CSE de l'association. Et c'est là que Bruno Retailleau vient à la rescousse, puisqu'il s'est empressé vendredi dernier de soutenir sur X la décision de cette association, en disant qu'il n'était pas acceptable que des personnes cherchent à s'extraire des règles communes en matière de laïcité, qu'il soutenait l'association opérateur de l'État, et qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il allait lutter sans relâche pour faire reculer le séparatisme. Donc la compréhension de la laïcité de tous ces gens de droite est toujours un petit peu particulière, puisque la laïcité, c'est aussi le respect de la liberté de conscience. C'est ça qui est prévu par le principe de laïcité tel qu'il a été mis en place à l'origine. On retourne sur un conflit dans le monde du travail privé avec une discrimination envers des salariés voilés qui fait un peu penser à l'affaire de Baby Lou, donc une salariée d'une crèche qui avait été licenciée, et d'ailleurs son licenciement en raison de son voile avait été considéré comme une atteinte à la liberté de religion par l'ONU. Les deux salariées en question, elles n'ont pas encore décidé si elles allaient saisir la justice. En tout cas, leurs collègues à l'appel du syndicat Sud appelle à un rassemblement mercredi 2 octobre à 16h30 devant la salle de réunion où se tiendra le conseil d'administration de l'ARS. Ils appellent à venir avec des signes ostentatoires religieux, politiques et philosophiques divers et variés pour soutenir ces deux salariés supplémentaires victimes de l'islamophobie qui ne fait qu'avancer en France.
Et toujours au national, on enchaîne avec le début du procès du RN.
Oui, 27 prévenus sont jugés depuis ce lundi pour des soupçons de détournement de plusieurs millions d'euros de fonds européens. Alors, à défaut de siéger à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen devra s'asseoir jusqu'au 27 novembre sur les bancs du tribunal correctionnel de Paris pour des emplois supposés fictifs d'assistants de députés européens. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir mis en place entre 2004 et 2016 un système de détournement de l'argent versé par l'Union européenne destiné à l'embauche de collaborateurs parlementaires afin de financer les activités politiques du parti d'extrême droite. Le préjudice est estimé à environ 7 millions d'euros par le Parlement européen. L'affaire avait débuté en janvier 2014 lorsque l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, a reçu un signalement anonyme sur une possible fraude, notamment de la part du FN et de sa présidente de l'époque, Marine Le Pen, qui a siégé au Parlement européen de 2004 à 2017. L'organe antifraude européen ouvre alors une enquête administrative et scrute les activités de deux proches de Marine Le Pen, Catherine Griset, sa chef de cabinet, et Thierry Léger, son garde du corps, tous deux présentés comme ses assistants parlementaires. L'enquête révèle que Catherine Griset, désormais eurodéputée, n'aurait passé que 740 minutes, soit environ 12 heures, au Parlement européen, lorsqu'elle était censée y être assistante entre octobre 2014 et août 2015. En mars 2015, l'affaire prend une plus grande ampleur. Le président du Parlement européen signale ses faits au ministère de la Justice française, qui ouvre alors une enquête préliminaire pour abus de confiance, estimant que ces faits pourraient s'apparenter à un financement illégal de parti. Confié en France à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, les investigations débouchent sur une série de perquisitions, notamment au siège du FN, où les enquêteurs recueillent des témoignages et des documents accablants, notamment comme le courrier adressé par l'ancien trésorier du parti, Valéran de Saint-Just, à Marine Le Pen, qui est daté de juin 2014, dans lequel il est écrit « Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen ». Une information judiciaire est alors ouverte en décembre 2016 sur des faits d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, escroquerie en mode organisé, faux et usage de faux et travail dissimulé. Une bien belle liste. Selon un rapport de synthèse, l'étude des documents découverts faisait ressortir la mise en place d'un système frauduleux impliquant plusieurs cadres du FN. En décembre 2023, au terme d'une enquête de 9 ans, les juges d'instruction demandent le renvoi devant la justice du FN. Et donc aujourd'hui, outre le Rassemblement National jugé en tant que personne morale, plusieurs membres ou anciens membres du RN figurent sur le banc des accusés, notamment 11 eurodéputés élus sous la bannière du Front National, dont Marine Le Pen, le maire de Perpignan, Louis Alliot, ou encore l'ex numéro 2 du parti, Bruno Gollnisch. Sont aussi devant, sur le banc des accusés 12 personnes présentées comme des assistants parlementaires, dont certaines sont devenues depuis députés européens ou députés français, et enfin 4 collaborateurs du parti, dont ce cher Valéran de Saint-Just. Mis en cause également dans cette affaire est l'ancien eurodéputé et l'ancien dirigeant du FN, Jean-Marie Le Pen, 96 ans, mais qui ne sera malheureusement pas présent à ce procès en raison de son état de santé. Mediapart a notamment révélé qu'il a passé son week-end à chanter avec des néo-nazis.
Ça l'a trop fatigué pour se rendre au procès, du coup.
Marine Le Pen, chef des députés RN, est donc, elle, jugée pour détournement de fonds publics et complicité, des faits qui sont passibles quand même d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans et 1 million d'euros d'amende. Elle encourt surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans, ce qui constituerait un obstacle de taille pour la prochaine élection présidentielle. Mais petite pépite de la fin, on a encore mieux que récemment, puisque Jordan Bardella est lui aussi rattrapé par cette affaire, puisqu'un journaliste de Libération a révélé qu'il aurait participé à la fabrication de faux documents destinés à justifier son activité d'assistant. On souhaite donc un joyeux procès au cadre du parti fasciste, et surtout, on espère que la justice n'oubliera pas de les rendre inéligibles.
Ouais, on peut toujours espérer. On va faire une petite pause musicale avec Fuck It Up de Mavi Phoenix.
Never with me. women by our brothers. I got everyone to come for. I don't need your comfort.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2.
Non, mais sur Skyrock.
Canu Info du lundi. Ne vous méprenez pas, vous n'êtes pas sur Skyrock. Vous êtes toujours sur Radio Canu. Et on va passer tout de suite à la rubrique. Non, on ne va pas passer
local.
À la rubrique.
Local.
Si.
Local.
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 Voilà, et donc au local, on accueille un militant de l'ECG. L'ECG, c'est un lieu dont on vous a beaucoup parlé dans cette émission, qui a subi de nombreux rebondissements. Et donc là, on a quelqu'un ce soir pour nous parler de la dernière information en date. Bonsoir.
Salut.
Alors, peut-être déjà, alors on en a beaucoup parlé de l'ECG, mais tu peux nous refaire un petit historique du lieu pour les auditeurs qui écouteraient pour la première fois le Canu Info du lundi.
Ouais, bien sûr. Eh ben, le CG annexe, en fait, c'est deux lieux qui sont collés. Le CG, ça signifie l'espace communal de la Guillotière. Mmh. Et c'est donc deux bâtiments dans le quartier de la Guillotière, dans le 7e, à l'angle de la rue Reinhard et Béchevelin. Le CG, ça a été ouvert en 2019. Et en 2021, l'annexe, donc le bâtiment juste à côté, a lui aussi été ouvert. Mmh. Et au départ, ça a été réfléchi comme des lieux de solidarité sur le quartier, donc ouverts sur le quartier et aux personnes qui y habitent, mais aussi un espace politique dans lequel il peut se passer des activités qui ne sont pas nécessairement liées à ce qui se passe dans le quartier, mais qui a vocation à accueillir toutes sortes d'activités politiques, quoi. Et ces deux lieux, bah, ils ont bien sûr fait l'objet de longs procès et de longues procédures judiciaires. Et là, on arrive au bout de cette procédure. Et la situation actuelle, qui est un peu la situation d'urgence dans laquelle on est, c'est que depuis le mois de juin, les deux lieux sont expulsables.
Alors, depuis le mois de juin, ils sont expulsables. Ça n'avait pas eu lieu, mais là, l'information qui est tombée, je me semble, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Non, un peu il y a quelques jours.
Il y a quelques jours,
oui. Oui, puisque c'était hier l'AG pour en discuter. Donc, c'est que, en fait, l'expulsion va finalement avoir lieu. Elle est imminente. Mmh. Est-ce que tu peux quand même nous dire ce que c'est, avant qu'on en parle un peu plus, ce que c'est l'ECG aujourd'hui, ou qu'est-ce que ça a été concrètement en termes d'activité?
Ouais. Eh ben, d'abord, c'est une partie habitation. Donc, il y a un certain nombre de personnes exilées qui habitent dans ces lieux, donc dans l'ECG et dans l'annexe. Donc, c'est des lieux déjà qui sont ultra importants pour cette raison. Et donc aussi, comme je l'ai un peu évoqué, c'est un lieu qui accueille des activités politiques et de solidarité. Et par exemple, pour faire une liste un peu rapide de ce qui s'y passe, il y a 10 jours, par exemple, il y a une soirée de soutien organisée en soutien à un autre squat à Villeurbanne qui avait besoin de sous pour faire des travaux. C'est également des lieux de réunion pour beaucoup de collectifs. Des soirées sont organisées aussi par différents collectifs. Des cours de français ont eu lieu là-bas pour les personnes qu'on avait besoin. Des permanences juridiques aussi pour aider les personnes à gérer leurs démarches administratives qui sont souvent ultra complexes et ultra laborieuses. Également, il y a un collectif de chorale féministe qui chante là-bas tous les mercredis. Un collectif de boxe autogéré. Donc voilà, il se passe énormément de choses différentes. Et c'est un peu aussi la force de ce lieu de se faire rencontrer beaucoup de collectifs et beaucoup d'espaces différents qui ne se rencontreraient pas forcément si cet espace n'existait pas. Et également avec cette ouverture sur le quartier, et donc qui permet encore de créer d'autres liens Et c'est pour ça que nous, on tient autant à ce lieu, parce qu'on considère que c'est un lieu qui est ultra important à la fois dans la vie du quartier et dans la vie militante lyonnaise plus globalement, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'à côté des réunions politiques ou des activités de soutien qui peuvent avoir lieu, il me semble qu'il y avait même aussi à une époque, je ne sais pas s'il a encore ouvert un lavomatique, du coup, à disposition des habitants du quartier, il y avait des ordinateurs. Et donc par les biais de négociations, vous avez appris que l'expulsion allait se faire aussi vite que la préfecture serait en capacité de la mettre en place. Je sais qu'hier, il y a eu une AG. Pour vous, qu'est-ce que c'est les enjeux maintenant ?
Ben, l'enjeu, c'est une urgence de la situation, puisque la trêve hivernale commence le 31 octobre, donc dans un mois. Mmh. Et à partir de cette date, les deux lieux seront protégés par la trêve hivernale comme pas mal de lieux occupés. Sauf que donc ça laisse un mois pour la préfecture pour nous expulser, et on a de très fortes chances de croire que c'est ce qu'ils vont essayer de faire, puisque ça fait des mois, voire des années que ces deux lieux sont dans le viseur des autorités. Donc là on a un mois pour s'organiser au plus, sachant que l'expulsion peut arriver à tout moment, donc potentiellement elle peut arriver demain matin.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place d'ores et déjà ?
Eh ben, on a commencé à mettre en place un certain nombre de choses. Donc là, l'idée, c'est que ces prochaines semaines, il y ait une sorte de veille constante assurée devant le lieu. Mm-hmm. Donc on organise des petits déjeuners à partir de 6h du matin, parce que c'est l'heure à partir de laquelle les expulsions ont souvent lieu, jusqu'à 18h le soir, car c'est à cette heure-là que les fonctionnaires de police finissent leur journée. C'est encore des suppositions, mais bon, souvent ça se passe comme ça. Mm. Et l'idée, c'est de se poser devant, de faire des petits déjeuners, de passer du temps ensemble. Et l'idée, c'est qu'il y a un peu de monde réuni déjà pour montrer que le lieu vit et que cette expulsion convient pas aux personnes qui à la fois y habitent et à la fois y militent. Et également avec l'idée de tenir au courant les différents réseaux dans lesquels on est, donc les réseaux de solidarité, les réseaux militants, pour en cas d'expulsion pouvoir prévenir le plus de monde possible, le plus rapidement possible, pour faire venir des gens. Donc il y a déjà un rassemblement qui est prévu devant le lieu au moment de l'expulsion. Si la route n'est pas bloquée, si elle est bloquée, ce sera juste au bout de la rue, donc à l'angle de la rue de Marseille et de la rue Reinhard. Mm. Et donc voilà, donc faut pas hésiter à passer. Il y aura globalement du monde tous ces prochains jours, et même si c'est passé pour une heure pour venir discuter avec nous et, voilà, et boire un thé, et c'est sympa de venir. Et
là, l'enjeu, c'est qu'il y ait du monde en permanence entre 6h et 18h.
C'est
à
ça.
L'ECG, à l'annexe de l'ECG. Tu peux rappeler l'adresse peut-être ?
Ouais, et ben l'annexe c'est au 27 rue Salomon Reinhard. Donc nous on est posé à l'angle de la rue Reinhard et Béchevelin.
Alors tu as mentionné qu'il allait y avoir des événements. Alors peut-être que tu peux nous dire comment les suivre, ceux qui seront programmés plus tard. Peut-être comment proposer aussi quelque chose, puisque tu disais que c'était ouvert. Et puis, deuxième chose, tu disais aussi qu'il y aurait un rendez-vous si l'expulsion ou l'arrivée des forces de l'ordre était signalée. Comment être au courant de ce rendez-vous au moment où il sera effectif ?
Ouais, parce que l'autre enjeu, donc, en plus d'être présent sur place au quotidien, c'est d'organiser des événements dans le lieu pour que le lieu vive et que ça dissuade en fait la préfecture. Et donc il y a un certain nombre de choses qui sont en préparation déjà. Et pour être au courant de tout ce qui va se passer là-bas, vous pouvez recevoir les informations sur la page Instagram de l'ECG, qui s'appelle ECG-du-bas-guillotière. Mmh. Et également sur Telegram, donc il y a une boucle qui s'appelle ECG Résistance. Mais cette boucle-là, elle est vraiment dédiée aux nouvelles concernant l'expulsion, mais c'est sur cette boucle que sera notamment diffusé le message de si l'expulsion a lieu, venez au rassemblement. Et donc c'est sur ce genre de médias qu'on peut être retrouvé, et également n'hésitez pas à passer parce que on sera globalement des personnes présentes là-bas qui sont en lien avec le lieu, et donc si vous voulez passer, proposer un truc, venez nous voir devant le lieu et on sera content de vous parler.
Voilà, donc si le CG est expulsé, ça serait une grosse perte pour le quartier. Donc je répète les informations, présence souhaitée à tout moment entre 6h et 18h pour être dissuasif, et notamment essayer de se tenir au courant si jamais une expulsion est lancée, pour venir aussi en soutien, pour surveiller comment se passerait l'expulsion, voire la dissuader aussi. Et suivre les informations si des événements sont organisés, et éventuellement si on veut en proposer, c'est sur Insta qu'on peut contacter ECG-du-bas-guillotière. Tu penses qu'il faudrait rajouter autre chose ?
Eh bien, venez nous voir.
Voilà, super, merci beaucoup.
Je t'en prie.
On enchaîne avec l'agenda peut-être ?
Oui, demain après le petit déjeuner à l'ECG, vous pourrez aller à la manufacture des tabacs à 11h30 à l'appel de plusieurs syndicats CGT FSU solidaires et des organisations de jeunesse. Il y a une grève le 1er octobre pour l'abrogation pure et simple de la réforme des retraites, pour les salaires et face à la destruction de nos acquis sociaux. On nous donne rendez-vous donc 11h30, manufacture des tabacs.
Et toujours demain, il y a l'Assemblée Générale de rentrée du collectif Solidarité entre femmes à la rue qui aura lieu à 17h30 à la Bourse du Travail.
Et ensuite, mercredi, il y a toujours le petit déjeuner de l'ECG. Et en fin de journée, vous pourrez aussi aller, alors on ne sait pas encore où, je crois, mais ça pourrait être à l'ECG, à la création du comité de quartier de la Guillotière, c'est à 18h. Tenez-vous informé, je pense, sur Rebellion pour avoir le lieu.
Et samedi 5 octobre, de 16h30 à 1h30, l'Anticra fait son anti-rentrée au Grand Zéro, 60 avenue de Bolène à Vaux-en-Velin. Donc c'est un événement d'information et de soutien aux luttes contre les centres de rétention administrative.
Et ça, évidemment, ce sera après le petit déjeuner de l'ECG. Et le samedi aussi, pour ceux qui habitent plus en campagne, il y a la fête annuelle de la Confédération Paysanne du Rhône. C'est dans le Beaujolais, au Domaine des Grottes, à Saint-Étienne-des-Oulières. Il y a tout plein de choses de prévues, dont du vin à boire et des concerts. N'hésitez pas à vous informer sur les réseaux sociaux de la Confédération Paysanne du Rhône.
Et c'est la fin de cette émission. S'il n'y a plus rien à l'agenda, on va vous laisser avec les bandes continues et vous retrouver lundi prochain pour le Canu Info du lundi.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je suis dans le doute, ouais. Bébé, je suis dans le blues, ouais. Bébé, je suis dans le four, ouais. Bébé, je suis dans le foutoir, ouais. Je reste avec mes youb, je reste avec mes loups, bah. Je reste avec mon cousin, il roule un peu de couche. Je suis un peu à la bourre, ouais. Pas envie de courir. De toute façon, le monde est louche, ouais. De toute façon, le monde est pourri. Je vais m'exploser la face, pendre un politique, tirer sur un keuf. Finir alcoolique, mon amour, j'ai le blues. 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 Nique sa mère le futur, mon cerveau est cramé. Depuis qu'un frère s'est cané, la veille on s'était parlé. J'crois plus en grand chose, j'ai arrêté la dope. J'me sens pas revivre. Le monde fout pas la gaule. J'ai bien regardé la rue, ouais. Les frères se tirent dessus. Personne ne parle d'amour. Tout le monde parle de thunes. J'ai pris un quart de l'exo. J'ai appelé ma frangine. Elle me parle des étoiles. J'ai écrit cette comptine. Oui, ma sœur, j'ai le blues. Bébé, je suis dans le doute, ouais. Bébé, je suis dans le blues, ouais. Bébé, je suis dans le four, ouais. Bébé, je suis dans le foutoir, ouais. Je reste avec mes youb, je reste avec mes loups, bah. Je reste avec mon cousin, il roule un peu de couche. Je suis un peu à la bourre, ouais. Pas envie de courir. De toute façon, le monde est louche, ouais. De toute façon, le monde est pourri. Je vais m'exploser la face, pendre un politique, tirer sur un keuf. Finir alcoolique, mon amour, j'ai le blues. 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 Nique sa mère le futur, mon cerveau est cramé. Depuis qu'un frère s'est cané, la veille on s'était parlé. J'crois plus en grand chose, j'ai arrêté la dope. J'me sens pas revivre, le monde fout pas la gaule. J'ai bien regardé la rue, ouais, les frères se tirent dessus. Personne ne parle d'amour, tout le monde parle de thunes. J'ai pris un quart de l'exo, j'ai appelé ma frangine. Elle me parle des étoiles, j'ai écrit cette comptine. Oui ma sœur, j'ai le blues. Oui ma sœur, j'ai le blues. Oui ma sœur, j'ai le blues. J'ai pas rangé mon appart, j'ai pas pris mes médocs. A deux ne mange pas ça, j'suis victime de mon époque. Prêt à pisser le sang, pour que demain ça change. J'aime pas les billets de banque, ça met les frères en transe. Ça met les frères en prison, j'connais la vente de pilons. Coke, crack, buva, elles sont très sont mes visions. Monde rempli d'addiction, frangin protège ton dos. Celui que t'appelles ton bro de te planter dans le dos. Oui maman, j'ai le blues. 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 Ouais, ouais.